Planète Montréal du jeudi avec Kitty Lady Special K et son équipe tous les jeudis de 16h à 17h30 sur les ondes du 102.3 FM. Bonjour Planète Montréal, j'espère que vous portez bien en ce beau jeudi 19 mars. Mon Dieu, le temps avance à notre grand bonheur. Ah, vraiment la température, c'est le sujet le plus couru ces temps-ci et je sens qu'on arrive, on approche des beaux temps, des beaux jours. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que vous portez tous très bien là où vous êtes, de où vous nous écoutez. Je vous invite dans l'univers de Planète Montréal jusqu'à 17h aujourd'hui. Je suis bien accompagnée comme à chaque semaine. Laissez-moi vous présenter mes collaboratrices d'aujourd'hui. Kate.
Salut.
Madalina.
Salut.
Karen.
Allô.
Et il y a DJ Lix au contrôle. Comment allez-vous?
Très bien. C'est une très belle journée aujourd'hui.
Très ensoleillé.
Ah là là, mesdames, vous êtes trop timides, là. Hein? Faut plonger. Comment allez-vous?
Super.
On est heureux, il y a du soleil.
Parle-moi de ça. Comment avez-vous passé la semaine?
Une très belle semaine, vraiment là. Moi, j'ai passé une semaine ensoleillée, remplie de joie. J'ai découvert plein d'affaires, donc une bonne semaine.
Moi, je suis heureuse parce qu'il y a la programmation d'Oshiega qui est sortie.
Hey oui, mon ami m'a texté il y a 5 minutes de ça.
Je suis assez fanatique du festival Oshiega et cette année, je pense qu'ils célèbrent leur 10e anniversaire.
Oui.
C'est fou comment le temps passe vite. On dirait que c'est un festival qui est né hier.
Exactement.
Moi, j'ai découvert ce festival l'été dernier. C'était mon baptême d'Oshiega.
Ah,
je suis
oui. Complètement
accro.
Okay.
Et je vois dans la programmation des gros noms, des noms qui m'intéressent beaucoup, comme Nas. Moi, je suis infinie de
moi
Nas.
Moi aussi,
oui.
Dans J'avais mes top 5.
Allait venir.
Nas vient à Montréal cet été.
Ah, ça, c'est un bel...
Ça, c'est une belle surprise. La grande visite! La grande visite!
Kendrick qui vient de sortir son album, tout récemment aussi.
Ah oui, et puis il y a plein d'albums qui vont sortir, d'ailleurs, dans le paysage culturel montréalais. J'ai très, très hâte qu'on puisse en parler au fur et à mesure que les albums vont sortir. Ah, le printemps s'annonce bourgeonnant.
Oui, pour tous les étudiants qui sont en examen.
Oui, c'est
bonne
vrai.
Chance.
Dont toi,
je
d'ailleurs.
Je suis dans un autre monde. Peut-être soleil avec des bourgeons, mais...
C'est le temps de la composition. Hein. Vous savez, samedi, c'est la journée internationale des poèmes, de la poésie, des choses comme
ça. Ah oui, il y a
voilà.
Des choses...
T'as des
très
choses à faire.
Ah oui, là, qui était dit, je vais juste en entendre parler. Il y a rien qui se donne pour toi. Hein?
Non, moi, j'hiberne dans une bibliothèque.
Ah ben, on se sent très chanceux de t'avoir avec nous aujourd'hui.
Ça me fait plaisir. T'as des bons sujets à porter.
Bon, ben, on va commencer comme ça l'émission, tout en sourire et en musique. On commence tout de suite avec un titre de J-Nax. J-Nax, c'est un duo de chanteurs. C'est une fille et un gars, là, qui forment ce duo-là. Ils viennent d'ici. Et on va vous jouer le titre Show You The Light. me show you the light, indeed. Je suis très contente. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça, c'est vraiment de la musique d'ici. Fait que moi, on est très fiers ici à Planète Montréal de jouer de la
l'artiste
musique d'ici, d'artistes d'ici. Puis en plus, c'est bon! Je suis très heureuse d'avoir à côté de moi mon ami Yves Ulysse. Yves, comment vas-tu?
Très bien, Katie. Merci pour cette invitation.
Ben écoute, Yves, je suis très contente que tu aies pu te libérer dans ton horaire super chargé parce que très bientôt, c'est-à-dire mardi prochain, le 25 mars, tu vas célébrer le lancement de ta plateforme web, oui. closeaccess.tv.
Oui.
Et ça, c'est magnifique. Moi, je suis trop contente de pouvoir accueillir des confrères comme ça, parce que moi aussi, j'ai ma plateforme web. Mm. Fait que plus on est, plus ça devient pertinent, plus ça devient intéressant. Puis ça fait aussi brasser les affaires un peu pour cette belle scène urbaine. Parce que la scène urbaine, elle est plurielle, hein?
Oui, oui, oui.
C'est la musique, le divertissement, la gastronomie, le théâtre, la littérature et la mode aussi en fait partie. Oh. Toi, ton dada, c'est la mode.
Oui, ben c'est la mode. J'aime beaucoup la mode. Je me suis toujours exprimé avec la mode. Et ce, depuis un très jeune âge. Mais j'ai beaucoup de champs d'intérêt. J'adore la musique. J'aime le théâtre. J'aime les spectacles. J'aime tout ce qui est divertissement. J'aime l'architecture. J'aime le design intérieur. J'aime l'événementiel, vraiment.
Fait que t'es vraiment un gars urbain.
Oui, c'est ça. J'ai grandi aussi à Montréal. Alors, pour moi, c'est très, très, très important. J'aime ça quand ça bouge.
Parle-nous un petit peu de ce beau concept de closeaccess.tv. Qu'est-ce que c'est?
Alors, closeaccess.tv, c'est un concept que j'ai tout simplement pondu comme ça, par hasard, parce que je trouvais qu'il y avait un manque à Montréal. Je trouvais qu'il y avait un manque au Québec, pas nécessairement au Canada, mais je trouvais qu'il y avait un manque à Montréal. Les artistes montréalais, très talentueux, on en a beaucoup, ça fourmille de créativité ici. Et je trouvais que les gens n'avaient pas une plateforme qui les représentait. Les télés traditionnelles, rien pour dire contre eux, ils font du travail extraordinaire, mais je trouve que je trouvais que malheureusement, il y a tellement d'artistes qui sont obligés de s'exporter, tellement d'artistes qui sont obligés de même pas vivre de leur art et qui se découragent et qui passent à autre chose, qui font des professions un peu moins intéressantes pour eux, comme du télémarketing, des trucs comme ça, à la place de s'exprimer, d'exprimer leur art. Alors, moi, Close Access, c'est vraiment une télévision, pas seulement pour ces gens-là, mais c'est une télévision aussi pour tout ce qui est de bon goût, tout ce qui est raffiné à Montréal. Alors, c'est une télé pour les gens qui n'ont pas une certaine reconnaissance, même s'ils sont, ils sont très, 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 très actifs.
C'est pour célébrer notre diversité, finalement.
Exactement.
Parce que, comme tu le dis, il y a des réseaux qui font un travail déjà extraordinaire,
oui,
que ce soit à la radio, à la télé ou d'autres plateformes web. Mais toi, tu sentais vraiment qu'il y avait un manque j'abonde dans ce sens-là aussi avec toi. Où est-ce qu'on va pouvoir syntoniser closeaccess.tv?
Closeaccess.tv, vous allez pouvoir vous rendre directement sur sa propre plateforme, www.closeaccess.tv. Alors, c'est la première chaîne, je crois, télé, pour les Montréalais et, espérons-le, les Canadiens aussi. C'est une plateforme, il y a Close Access, qui est l'émission de base, qui est celle que j'anime, et closeaccess.tv, c'est la chaîne elle-même. Alors, closeaccess.tv, il va y avoir d'autres personnes qui vont pouvoir réaliser leurs propres vidéos et leurs propres shows, que ce soit de cuisine, que ce soit de shows de musique, que ce soit quoi que ce soit. Nous, on sélectionne les gens avec qui on veut travailler et ces gens-là vont pouvoir utiliser la plateforme. On va même les aider à lancer leur production sur cette plateforme-là. Parce que moi, mon émission, même si elle est de variété et il y a toutes sortes de sujets, mais ça, c'est pas garanti que mon image va plaire à tout le monde. Alors, moi, je veux quand même partager cette plateforme-là avec les autres.
Fait que mardi prochain, ça va se passer où exactement?
Ah, c'est mercredi.
C'est mercredi.
Le temps passe tellement vite.
Le 25 mars
prochain. Oui. Ça va se passer au 390. C'est le club Le People. C'est un club très select qui a été rénové dernièrement et que la décoration, quand je suis allé là pour lors d'un événement, m'a vraiment... touché. J'ai trouvé ça très, très beau, très chaleureux. Alors, je me suis dit, c'est ici que je vais faire mon lancement. Mm-hmm. Et ils ont été suffisamment généreux pour nous commanditer à l'endroit pour ce lancement.
Ça vaut la peine un petit peu de parler du Club People. C'est là que vous allez avoir lieu ton lancement mercredi prochain.
Oui, exactement.
Le propriétaire, c'est DJ Jojo Flores.
Exactement.
Un autre très grand talent d'ici, de Montréal, qui s'exporte lui aussi pour pouvoir gagner sa vie, qui a décidé d'ouvrir vraiment son établissement, son club, qui n'est pas juste un club, mais vraiment un espace multidisciplinaire, finalement, dans le Vieux-Montréal. Fait que c'est un endroit qui mérite notre attention également.
Oui.
Fait que closeaccess.tv, mercredi prochain, c'est le lancement de la plateforme web.
De la plateforme au complet, mais la première émission, on présente le premier épisode de la première émission, évidemment, Close Access, dont je suis l'animateur. Alors, on lance la plateforme et aussi on va inviter des gens. Il va y avoir des gens de tous les milieux, du milieu de la production télé, du milieu de la production de la mode. Il va y avoir des gens de tous les champs d'intérêt, quoi. Des designers d'intérieur, il va y avoir des... merci. Il va y avoir des designers d'intérieur, des architectes qui vont être présents. Et c'est vraiment... on invite les amis, on invite les artistes, on invite tous les gens, justement, qui veulent que cette plateforme-là fonctionne et qui veulent vraiment nous soutenir. Et, on a déjà pas mal d'invités et on a une très, très bonne réponse. On est très contents.
J'en doute pas. J'ai envie de te demander, avant qu'on se laisse, quel est jusqu'à présent ton plus grand défi à monter ce beau projet? Parce que comme tu dis, ça t'est venu par hasard.
Oui.
Et moi, ma mère, moi, j'ai toujours cité ma mère. Hein. Ma mère, elle disait tout le temps, ce que tu cherches, te cherche.
Oui.
Fait que c'est pas vraiment venu par hasard. Je pense tu naviguais, tu t'étais autour de ça un petit peu par défaut dans ta vie personnelle. Oui. Quel a été ton plus grand défi à monter cette plateforme, et quel est le plus grand défi que t'envisages?
Le plus grand défi que j'avais à monter cette plateforme, c'était justement de garder les deux pieds sur terre, premièrement, parce que c'est tout ce qui se passe en ce moment, c'est tellement merveilleux. Et c'est surtout de garder confiance et de dire oui, je suis dans la bonne direction, et que de savoir que je fais pas ça juste pour moi, je le fais pour les autres aussi. Mais le plus grand défi, c'est vraiment de rester focus et de garder l'équipe ensemble aussi, et de stimuler ton équipe à vouloir bien faire et aller au-delà de leur talent. Et vraiment le plus grand défi, je peux dire que le plus grand défi que chaque personne peut rencontrer dans sa vie quand ils partent un projet, c'est eux-mêmes, c'est de se faire confiance à soi-même et d'être positif, d'être optimiste et de croire et de jamais cesser de croire.
Génial, merci. Wow. Merci pour ton ça avec nous.
Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Kitty.
Donc, Close Access, si je comprends bien, ça souligne tous les nouveaux talents des personnes locales à Montréal.
Ça souligne les nouveaux talents, ça souligne les talents qui sont déjà là, mais qui n'ont pas de visibilité. C'est vraiment une plateforme pour donner de la visibilité à toute la créativité montréalaise, que ce soit dans la haute gamme, que ce soit dans le plus underground, mais c'est vraiment montrer au public toute la créativité qu'il y a ici, parce que c'est une scène active, la diversité ici. C'est vraiment
bien.
Ça.
Ah, c'est bien. Bon, ben nous, on va checker ça, on va synthétiser ça dès mercredi prochain.
Définitivement.
Donc, peuple de Montréal, il y a du nouveau sur le paysage culturel, et c'est au www.closeaccess.tv. Merci beaucoup, Yves-Ulysse.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
Le mot de cambrogne, merde. Et puis surtout, amuse-toi bien. Vraiment.
Merci, et on vous y attend tous.
Oh, ben, on va être là, c'est certain.
Certain.
Alors, je vous rappelle que vous écoutez l'émission Planète Montréal du jeudi, et on part en musique avec, pourquoi pas, un artiste qui lui aussi s'exporte. Justement, il est en tournée européenne. C'est notre ami Marco Volsi. C'est un titre qu'il partage avec Corneille, Elle.
Je suis son homme quand je gagne, son amour quand je perds. Quand je m'égare et m'épargne, parfois me fait le mal nécessaire. Elle et moi on fait équipe, on tient tête au hasard. Et quand la chance nous évite, on s'aime à mourir d'espoir. Elle a le tour, elle est née pour me plaire. Elle sait toujours. Dans l'ombre, dans la lumière, c'est elle qui restera là. Tout en haut, dans la misère, près d'elle, je resterai là.
musique, ma mélodie du bonheur. Quand je divague, elle me pique, elle fait de moi son as de cœur. Elle et moi, c'est plus que parfait. Je le vois dans son sourire. Jamais, jamais, on prend jamais. Je ne m'empêcherai de lui dire. Elle, solide comme un rocher, je peux compter sur elle. Me fait pousser des ailes. On s'abandonne dans l'ombre, dans la lumière. C'est elle qui restera là. Tout en haut, dans la misère. Près d'elle, je resterai là.
Marco Volsi et Corneille avec le titre Elle, ici à Planète Montréal. J'ai à côté de moi B Brain, un ami de longue date de la scène hip-hopienne montréalaise. B Brain est l'animateur de l'émission Ghetto Érudit à Radio Concert, CISM. Comment vas-tu?
Ça va très bien, toi?
Ça va super bien. Je suis très contente de te recevoir ici à Planète Montréal.
Ça fait plaisir. C'est la première fois que je viens
dans
ton show.
Ma nouvelle émission. À chaque émission, je t'invite. Tu me suis comme ça, comme un ami.
Toujours.
Alors là, tu viens nous parler de deux événements. On va commencer avec le premier qui est End of the Week Montréal.
Exact.
C'est la 4e saison.
Oui.
Wow, c'est débile.
Ben déjà, le temps passe vite. C'est notre 4e saison, puis on revient en force cette année. Déjà, le End of the Week, c'est pour les gens qui savent pas c'est quoi, c'est une ligue d'improvisation rap qui est présente à l'international. Donc, elle est dans une quinzaine de pays. Ça vient de New York à la base. Et chaque pays tient sa saison qui se termine avec une finale mondiale. Et puis, bon, après avoir envoyé nos champions à New York, à Londres, à Kampala, en Ouganda, ben cette année, la finale mondiale, c'est à Montréal. Donc, on est en plein dans l'organisation de tout ça, mais en même temps, il y a la saison qui doit avancer.
Attends une minute. Cette année, la finale mondiale est à Montréal.
Exactement.
Donc, tu as le fardeau d'accueillir la planète.
Oui, si on veut. À ce jour, je dirais qu'on a à peu près 6 pays de confirmés qui seront présents à Montréal.
Malade. Ouais. Alors là, la prochaine date va être le 21 mars prochain.
Ce samedi.
Ça va être la 2e édition de la 4e saison.
Oui.
Écoute, moi, pour avoir été juge d'une édition de End of the Week, c'est marathonien.
Oui.
Explique-nous un peu comment ça se passe.
C'est un feu roulant, c'est sortir les artistes de leur zone de confort. C'est pas des battles, c'est un anti-battle. Donc, les histoires d'insultes, tout ça, on est très, très loin de ça. C'est même les amateurs de hip-hop vont apprécier. Les gens qui sont pas nécessairement fans vont aussi retrouver quelque chose d'intéressant.
Et le titre le dit, hein, End of the Week. Faut pas être une mauviette pour participer à ça.
La fin des faibles.
Oui, oui.
Donc, c'est un MC challenge en 5 épreuves. Donc, les artistes passent par 5 jeux. C'est en solo. Le premier jeu, c'est le 16 bars. Donc, on a un DJ. Il met un beat au hasard. L'artiste a de 16 à 32 mesures pour faire un texte, une improvisation. Ensuite, on passe à la cappella. Donc, on a les mêmes règlements. C'est un 16 à 32 bars à cappella. Ensuite, on tombe vraiment dans l'improvisation. Donc, on a le freestyle bag où on a notre boîte à objets sur la scène. Les artistes doivent piger 5 objets en 2 minutes, puis en faire mention au travers de l'improvisation. Après, on passe à un jeu qui est vraiment le fun aussi, c'est le MC versus DJ. Donc, ça se rapproche un peu d'un battle parce que le DJ, en 2 minutes, va changer le beat à 3 reprises, va augmenter, baisser les tempos et l'artiste doit s'adapter là, au rythme finalement. Et tout ça, ça se termine avec le cypher. Donc, c'est un jeu en collaboration avec tout le monde où ils choisissent un thème, ils doivent faire un cypher 4 bars à 3 reprises. Puis ça, c'est pour clore la soirée.
Moi, je suis toujours étonnée qu'il n'y a personne qui pleure à la fin d'une soirée, il n'y a personne qui fait une dépression. C'est fou, fou, fou. C'est aussi fou pour les juges que pour les participants. Qu'est-ce qui est en jeu exactement?
Qu'est-ce qui est en jeu, en fait, c'est la place de champion. Donc, à chaque édition, on a un champion et cette personne-là a un passe-droit automatique pour la finale nationale qui aura lieu à Montréal le 4 septembre prochain. Et le champion de cette finale-là devient le finaliste pour la finale mondiale. Le champion québécois, canadien, en quelque sorte.
Et à Montréal, on n'est vraiment pas des faibles?
Non. On a beaucoup de talent. Nous, ce qu'on essaie de faire à chaque édition, c'est d'amener des artistes de renom et de la relève. C'est super important. Et on a 5 artistes cette fois-ci, mais on a toujours une place ouverte pour un artiste du public. Donc, quelqu'un qui voudrait s'essayer le soir même, on fait un open mic en début de soirée. Les gens ont 1 minute pour impressionner le public. Et le public choisit une personne sur les 5 à 6 inscriptions qui sont ouvertes. Et cette personne-là entre dans la compétition le soir même.
Wow! C'est intéressant de mentionner quand même le nom de Monkey qui s'est démarqué presque 2 années de suite,
Trois années de suite
comme champion canadien et qui s'est démarqué également sur la scène internationale.
Oui, d'ailleurs, en ce moment, Monkey il est en tournée en Afrique comme ambassadeur pour un projet qui fait la promotion de la francophonie. Donc, il donne des ateliers d'écriture, il fait des toiles un peu partout parce que Monkey est aussi un artiste peintre. Donc, c'est en lien avec son passage à Kampala à l'automne. Il y a des liens avec New York, avec la Suisse, avec la France. Tout ça un peu grâce à sa participation
Week.
End of the Week.
C'est fou. Alors, mettez ça à l'agenda. En tout cas, si vous voulez une soirée qui sort de l'ordinaire, vous n'allez pas être déçus et vous n'allez surtout pas vous ennuyer. Ça se passe le 21 mars prochain au Divan Orange. Oui. Les portes ouvrent à 21h. L'entrée est de seulement 10 $ et 5 $ à l'avance, bien sûr. Et pour entrer en contact avec vous, pour les billets en prévente, on fait comment?
Pour les billets, on invite les gens à se déplacer à la vitrine. Lavitrine.com ou en personne à la vitrine culturelle qui est vraiment sur le coin Saint-Laurent-Sainte-Catherine. C'est notre billetterie officielle pour toute la saison. On peut se procurer des billets pour les prochaines éditions aussi. C'est déjà en vente.
Génial. Wow. Bravo.
Ben, merci.
Mais toi, B-Brain, tu chômes pas parce que tu es venu nous parler d'un deuxième événement. Tu sais, il vient avec ses paquets de flyers. Là, je suis comme bon. Ils en viennent à Planète Montréal.
Exactement.
On va travailler.
Le deuxième projet, en fait, j'ai repris mon chapeau d'agent de liaison pour le festival Jeunesse Mon Quartier Mon Art qui en est à sa 5e édition. Moi, ça fait, je pense, la 4e année que je m'implique. C'est un festival qui est organisé par l'organisme Rap Jeunesse qui est situé dans le quartier Bordeaux, quartier Ville, Hontic. Et eux, ce qu'ils font, c'est du travail de rue à la base. Les Jeux de la rue, compétition de pour les jeunes sportives à Montréal, c'est eux. Mais ils ont aussi le volet culturel. Donc, le festival, cette année, comporte 3 volets. Il y a le rap, le slam et la danse. Et tous les événements sont gratuits. Ça se passe au théâtre Rialto cette année. Et ça débute le 27 avec la danse. On a le slam qui a lieu le 3 avril et le concours de rap le 10 avril. À chaque compétition, il y a des participants qui vont être choisis pour se rendre à la grande finale qui aura lieu à l'Astral sur Sainte-Catherine. Et ce sera notre gala de clôture à ce moment-là. Je crois que c'est à la fin du mois d'avril. Les inscriptions sont malheureusement fermées. C'était dans les dernières semaines, mais on invite les gens à venir voir l'événement, découvrir la relève. C'est les artistes que tu vas diffuser dans les prochaines années, fort probablement. Puis c'est des événements qui sont gratuits aussi. Il y a toutes sortes de prix. Moi, je m'occupe vraiment du volet rap. Donc, il y a entrevues radio, il y a des vidéos, il y a des spectacles, enregistrements professionnels en studio comme prix pour les artistes. Souvent, c'est leur première expérience. Il y a aussi un certain mentorat parce qu'il y a des juges. Donc, il y a Dramatique qui s'implique avec nous cette année, encore une fois. Gâteau érudit, bien sûr, et un champion du End of the Week qui est Chacalcoolique, qui a remporté la 1ère édition, sera sur le panel qui va prendre la décision, là, qui va juger cette année.
C'est génial parce que les artistes se demandent souvent de quelle façon se démarquer, ouais. se propulser. Fait que ça, c'est des activités vraiment pertinentes dans ce sens-là. J'applaudis votre effort. J'applaudis cette production. Donc, les dates à retenir pour les artistes slam, c'est le 3 avril ouais. prochain. Les portes ouvrent à 18h30. Ça se passe au Théâtre Rialto. Et le spectacle débute à 19h. L'artiste invité est Fabrice Coffi, oui. qu'on aime beaucoup ici à Planète Montréal. Donc, à mettre ça à l'agenda. Et pour la catégorie rap, ça se passe le vendredi 10 avril. L'artiste invité est Dramatique. C'est également sponsorisé par Ghetto, Érudit et End of the Week, bien sûr. Donc, wow, merci. C'est des beaux cadeaux, ça. De l'information, c'est des cadeaux. Merci.
Ben, merci à vous.
Fait qu'on peut t'écouter tous les samedis soirs.
Tous les samedis soirs de 19h30 à 21h30 sur les ondes de CISM 89.3 à Montréal. Et maintenant, on est aussi rediffusé dans la grande ville d'Ottawa sur les ondes de CHUO 89.1 les mercredis à minuit.
C'est le fun à savoir. Oui. Merci beaucoup, B-Brain.
Et merci à vous.
À très bientôt. Bon Bonne fin de journée. Je rappelle que vous écoutez Planète Montréal du jeudi. Il est présentement 15h26. Restez avec nous. On est là jusqu'à 17h.
Ce soir on oublie tout, je t'emmène comme autrefois. Mets ton foulard à ton cou, prends ma main, je guiderai tes pas. Ce soir, oublier les tracas. On ira se promener là-bas, où tu voudras. Viens danser avec moi, tout près, tout contre moi.
Tout ce que tu voudras, je suis là pour toi.
Viens danser avec moi.
Ça, c'est du printemps, ça. Gage dans nos oreilles avec le titre « Viens danser ». Qui n'aime pas ça?
Moi, j'aime ça.
Moi, j'entends personne se plaindre. En plus, il est beau comme un cœur. Madalina, comment vas-tu?
comment je vais?
Mais oui.
Alors, quelle question. Je croyais que ça se voit.
Ça va bien. Voilà. Alors, cette semaine, tu as eu envie de nous parler de vin.
Oui, j'ai envie de me saouler, alors au moins en parlant.
Commencer en quelque part.
Non, parce que je ne bois pas, alors.
Juste en parler, ça va être suffisant. Alors, pourquoi tu as eu envie de nous parler de ça?
Parce que, tu vois, je suis tombée sur deux nouvelles cette semaine liées à la consommation de l'alcool. Et d'une part, on parlait de la possibilité d'une vente d'alcool en sachet, en poudre, sur le marché états-unien et canadien.
Comme du Kool-Aid, là.
Oh là là, mais quelle histoire. Et donc, cette possibilité...
Je suis pas sûre.
Voilà, c'est une possibilité, mais c'est perçu comme une menace. Hein. C'est normal. Et d'autre part, un confrère journaliste, Pierre Couture, a publié lundi un article dans le Journal de Montréal, dans lequel mettait en doute, en fait, la qualité de certains vins. Il a fait analyser une dizaine de vins, certains vendus chez les dépanneurs et d'autres à la SAQ. Et tous ces vins, en fait, sont importés en vrac et embouteillés dans une usine au Québec. Et les résultats de son enquête démontrent un fort taux d'acidité volatile, une bonne quantité de sucre résiduel et surtout une bonne dose de sulfite. Alors moi, qui ne connais presque rien sur les vins, et j'en consomme très rarement comme je disais, j'étais très intriguée parce que je ne comprenais pas trop ce qui clochait dans tout cela, et je me posais pas mal de questions. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé en fait de faire cette petite recherche sur la consommation du vin, et pour partager avec les auditeurs et vous quelques informations que je vais livrer sous la forme questions-réponses.
Alors, ah bon.
Et on commence.
On se prête au jeu.
Première question. Oui. Est-ce que les Québécois boivent beaucoup de vin?
Moi, oui. Je pense que oui. Avec les hivers qu'on a.
Ah oui, c'est oui, mais ça serait trop simple si je disais juste oui. Alors, écoutez bien. Si on juge d'après le nombre de parties vin et fromage, on en déduit, c'est sûr qu'au Québec, on boit du vin et pas que de la bière. Parce que la première place, c'est la bière. Hein. Donc, au niveau du Canada, notre consommation de vin à Québec est plus élevée que la moyenne. Environ 23 litres. Suivent la Colombie-Britannique et puis Alberta. Et juste pour avoir une idée, en France, on consomme presque le double. Donc globalement, depuis quelques années, les viticulteurs canadiens offrent de plus en plus de vins de qualité, et notamment le fameux vin de glace et cidre de glace. Deuxième question, est-ce qu'il y a une particularité dans l'histoire concernant la consommation de l'alcool au Québec? Une particularité, là, quelque chose de fort.
Peut-être qu'il y a une période de prohibition.
Ah, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette prohibition? Il se passe que elle a eu lieu, mais Québec a été le seul endroit, tant au Canada qu'aux États-Unis, si on parle, enfin l'Amérique du Nord, où la prohibition n'a pas été totale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a toléré ici le commerce du vin, de la bière et du cidre. Donc, Québec a eu une particularité. Et Québec a toujours une particularité qui est moins bien vue par les consommateurs, c'est-à-dire que la vente d'alcool reste un monopole d'État. Mais là, j'ai rien dit. Hein. Alors, troisième question. Qui définit un bon vin? Ou qu'est-ce que c'est qu'un vin bon, finalement?
Je dirais le rapport alcool et goût.
Ou la qualité des raisins, le temps que
la
ça
toxicité.
Pris pour...
Toute réponse est bonne.
Dis l'odeur aussi. L'odeur d'un bon vin. Oui.
Toute réponse est bonne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas qu'un bon vin, il y a deux bons vins. Donc c'est une question de préférence, c'est une question subjective. Et par exemple, moi j'aime bien le vin sucré, qui me tourne un peu la tête, juste quand je veux et comme je le veux. C'est pour moi, c'est ça un bon vin, vous voyez? Mais bon, je blague un petit peu, mais vous l'avez compris, c'est une affaire de goût. Et il y a une chose quand même, au-delà de la subjectivité, c'est que quand le vin tourne au vinaigre, c'est pas bon, ça c'est un fait. Donc la qualité du vin concerne ses propriétés organoleptiques, c'est quoi? C'est le toucher, le goût, l'huile, l'odorat. Ça concerne ses arômes et surtout son équilibre. Alors, quatrième question. On parlait tout à l'heure, au début de l'enquête, qui dénonçait en fait une bonne dose de sulfite dans certains vins vendus à la SAQ. Mais qu'est-ce que c'est, ces sulfites?
Bon, on sait pas. Aucune idée.
Alors, sulfite ou soufre? On dit aussi soufre. On souffre pas, mais soufre. Alors, Alain Lebel, journaliste chroniqueur vin, nous explique très simple, d'une manière très simple. C'est que ce sont en fait des agents de conservation utilisés depuis l'Antiquité.
Ah.
Oui. Et donc, le soufre est un antiseptique et un antioxydant qui protège le vin contre les bactéries et prévient les risques de détérioration liés au transport et à la conservation. Et on en met du soufre pendant tout le processus. C'est un peu, si vous voulez, comme le sel. Indispensable, mais il est nécessaire. Donc, il est nécessaire, mais si le dosage n'est pas bon, l'équilibre du vin est fichu. Okay. Alors, le soufre a souvent été utilisé de façon excessive, soit par ignorance, soit par incompétence, ou même pour cacher des défauts. Et c'est pour cela qu'il a une mauvaise réputation. Et au Québec, tous les vins que vous trouvez en SAQ contiennent donc le soufre. Mais il y a quand même une limite qui est établie. Et le petit bémol de la SAQ est que la seule obligation qu'elle impose au niveau de l'étiquetage des bouteilles est en fait la présence de la mention « contient des sulfites ». Vous croyez que c'est bien ça, cette étiquette-là? Ben c'est bien, mais bon, là, si tous les vins contiennent du sulfite, ça aide à rien. Alors, ce qui nous aiderait, c'est quoi? C'est la teneur en sulfite d'une bouteille de vin. Mm-hmm. Parce que comme ça, les gens qui sont un peu sensibles pourront choisir en conséquence. Parce que vous voyez, quand il y a beaucoup de sulfite dedans, ben ça commence à sentir un petit peu. Vous savez quelle odeur?
Non.
Ah ben, pour certains, c'est les œufs pourris. D'autres disent que ça sent un petit peu comme une allumette qu'on vient de gratter. Donc, c'est pas très bon. Et un vin sans sulfite, ça n'existe pas. Mais en règle générale, si vous voulez les éviter au maximum, prenez du vin. Vous savez de quoi? Le vin rouge. Alors, il y a aussi des gens qui disent qu'en fait, les sulfites sont responsables pour les maux de tête. Mais ce n'est pas vrai, parce que les chercheurs ont démontré que c'est plutôt une molécule qui se forme lors de la seconde fermentation du vin. Et la dernière question, très intéressante d'ailleurs, comment choisir un vin?
C'est tout un art. Si les goûts ne se discutent
pas. Et voilà.
Je pense que ça dépend de chaque individu, non?
Exactement, c'est tout un art. Je n'ai pas une réponse, mais j'ai des pistes. Alors, quand vous choisissez le vin, ne pensez pas qu'à vous, qu'à vos goûts, n'est-ce pas? Pensez à vos convives, pensez à l'environnement où vous allez, pour quel type de rencontre, et surtout à ce que vous allez manger pour que les deux se marient, enfin, le vin ou les vins. Alors, mais si vous voulez avoir plus de détails, je vous conseille fortement de lire le guide du vin le plus consulté au Québec, qui est vinquebec.com. Et aussi, aller sur le site de la SAQ, parce que c'est là que vous allez acheter les bouteilles. Et sachez que depuis 8 ans maintenant, la SAQ propose les pastilles du goût. C'est en fait leur manière d'identifier le type de vin. Et par exemple, vous allez diversifier votre vocabulaire en sachant qu'est-ce que c'est un vin fruité et léger ou un vin aromatique et souple. Il y a beaucoup de mots pour vous aider à faire un choix et pour faire une appréciation sur le vin, excepté le « j'aime ce vin » ou « je n'aime pas ce vin ». Et alors, pour vous, j'ai retenu un mot exprès pour vous épater la galerie au moment venu. Quand vous goûtez un vin et vous ne savez pas quoi dire finalement, vous pouvez dire simplement « oh, ce vin, il est foxé ».
On peut dire c'est rond en bouche.
Ah oui, ça aussi.
Mais foxy. Vous savez ce que c'est foxé?
Non.
Ben voilà,
non.
C'est pour ça, dites-le. Vous allez voir la réaction. Soit ils ne savent pas et ils n'osent pas dire, soit ils vont vous demander. Et là, il faut savoir répondre.
Madeline.
Alors, foxé, c'est odeur ou goût de sauvage, de fauve. Ah.
Merci beaucoup. Bon, ben je sais comment choisir mon vin pour demain soir.
Ouais, pas pour demain soir, pour tout à l'heure, on va.
Alors, on poursuit en musique avec Donnie Braz, un autre artiste d'ici, avec le titre Trump Tower View. Merci.
Good, yeah, that millionaire. Money don't change you, only gets you paid. If you're close to being a coward, it will make you graduate. OG's dream finally out, graduate.
Next time the album save them dollars, gotta pay. Need money like the Jackson 5. Go to my hood, you can ask them guys. Nobody made it out, everybody working phone tenders. That's the 9 to 5. How can I provide for my sis, my baby mama pop? The recession, you've seen the earthquake. My country used to be poor, now it's worth it. No opportunities, here I got some. They're still making millionaires, here, where's my spot? There's a way in the right way, I think the right way. I'ma write them on, yeah, I heard that wrong page.
I'm riding on the city from my Trump Tower view. Cause I hustle, I got the product in the streets for the customers. I got it better at the cheap at the plus. On the city from my Trump Tower view. Cause I hustle, ain't nobody better than me and what I do. Ain't nobody with me.
I swear I'm a millionaire view on the plateau. If my broke, no worries, cause I got them. I'll get it popping. Time for some action. Word of Reggie Noble, no more staying local. Vocal sounded like a million, no trillion, billion bucks. Homie, cause I'm living in a dream. Best not to waken up, cause there's only one way to go. I'll never get enough, and heaven only knows how hard I want it. Could've went to college, but my heart was saying, stressed out of life, I don't wanna be a failure. I got no plan B, cause planning this will get you there. I don't care, had to leave the city, cause them white folks don't wanna see it win. I don't care, let me get my foot in, I'ma keep it moving. Bring some more talent with me, now call it a movement.
Riding on the city from my Trump Tower view. Cause I hustle, I got the product in the streets for the customers. I got it better at the cheap at the plus. On the city from my Trump Tower view.
Alors, c'était le titre de Donnie Brass, Trump Tower View. Je vous rappelle que vous écoutez Planète Montréal et avec Kate, on va parler de santé.
Ben oui, comme à chaque semaine. Alors, il y a quelque chose qui a retenu mon attention cette semaine, en fait. C'est une recherche qui a été portée avec des jeunes, jeunes adolescents et jeunes adultes qui demandaient, en fait, leur poids santé, c'est comme leur perception d'eux-mêmes. Puis 15% des étudiants ont mentionné qu'ils souffraient d'embonpoint ou d'obésité. Et 12% ont mentionné, et un peu plus que 12%, qu'ils admettaient se faire jeûner pendant plus qu'une journée pour, en fait, perdre du poids. Wow. Donc ça, la raison pourquoi j'en parle, c'est parce que ça m'a quand même touchée dans un sens que je me suis dit, il y a un problème, il y a un manque d'éducation par rapport à la nourriture, l'alimentation, où trouver les aliments, puis il faut augmenter l'accessibilité de l'information parce qu'il y a un manque d'information qui est donné directement aux écoles ou à travers les familles, peu importe. Donc, je prends l'opportunité, en fait, dans cette capsule, à chaque semaine, de mentionner un ingrédient de plus qu'on peut découvrir ou qu'on peut ajouter dans notre diète, et aussi pour juste s'informer par rapport à les bienfaits. Donc, c'est une opportunité d'apprendre de la richesse des aliments qui nous entourent et d'autres façons de s'alimenter. Donc, si on vous disait, je sais pas si vous avez entendu récemment, il y avait le diet pill là, qui est allé partout, là, ça fait des ravages. C'était un concept comme quoi boire la pilule qui t'aide à perdre du poids en 2 secondes. Mais en général, c'est toujours de se faire vendre une idée pour être en santé qui ne demande pas de faire des changements de nos habitudes. Ce que je suggère, c'est d'utiliser, comme on dit, que ta nourriture soit ton médicament et ton médicament ta nourriture. Donc, comment on s'y base? Comment on s'en parle? Je vais vous donner un peu d'informations par rapport à un concept qui est très intéressant, c'est les aminoacides. Donc, il y a certains aliments qu'on dit ils sont très forts en aminoacides, mais personne ne sait ça veut dire quoi. Genre, tout le monde est comme aminoacides, ah ouais, il y en a beaucoup, c'est bien, genre, mais pourquoi? Comme, c'est quoi le problème?
C'est comme antioxydant. Tout le monde utilise ce terme-là, mais qu'est-ce que c'est que ça?
On va parler dans le cas.
Oui, s'il te plaît. Donc,
aujourd'hui, je vais vous parler d'un aliment qui est un superfood. Donc, il y a quelques aliments, une catégorie de peut-être 20 aliments qui sont considérés comme des super aliments parce qu'ils ont des caractéristiques qui sont complètement extraordinaires. On a parlé déjà de champignons de l'immortalité, on a parlé du miel, on a parlé de différents items comme le moringa, le spirulina à chaque semaine. Et cette semaine, je vais vous parler d'un ingrédient très particulier qui est unique. Donc, je vais vous parler premièrement des aminoacides. Qu'est-ce qu'un aminoacide? Donc, on sait que les protéines, c'est important. Et les aminoacides, dans le fond, c'est ce qui compose les protéines, ce qui crée les protéines. Donc, ça répare les tissus, ça aide à guérir les plaies. C'est dans les aminoacides, c'est dans les cellules, les muscles, les tissus, les organes, les os, les cheveux. Tu sais, on s'entend, c'est partout. Ça aide à se débarrasser des toxines et des déchets qui sont accumulés dans le corps. Donc, il y a des centaines, il y a peut-être un peu plus que 200 sortes d'aminoacides. Et notre corps le crée, en fait. Il y a certains aminoacides que notre corps crée, c'est les noms essentiels. Il y a certains aminoacides que notre corps crée, mais pas en quantité suffisante. Ça, c'est les semi-essentiels. Et il y a les aminoacides qui sont essentiels. Et ça, c'est ceux que notre corps ne crée pas de lui-même. C'est les aminoacides qu'on doit obtenir dans la nourriture. Donc, d'où vient l'importance de manger des aliments qui sont très forts en aminoacides, qui ont plusieurs sortes d'aminoacides. Chaque aminoacide est différent et c'est pour ça qu'ensemble, ça fait une symphonie puis ça fait un petit casse-tête à l'intérieur. Donc, en tout, qu'est-ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a 22 aminoacides qui sont cruciaux pour notre survie, même s'il y en a d'autres qui sont pas nécessairement nécessaires. Et aujourd'hui, je vais vous parler du quinoa. Le quinoa, est-ce que quelqu'un connaît le quinoa
oui,
ici?
Oui,
oui,
oui
cher.
Moi, je le rate toujours, mon quinoa, fait que je suis très contente que t'en parles. Puis on m'a dit que c'est encore plus facile que du riz à cuire.
Oui,
mais pourquoi je le rate tout le temps?
Oui, mais il est sec. Comment faire pour que ça sec?
Je crois que tu mets trop d'eau.
Okay. OK, on va laisser Kate parler.
Bon, c'est pas un cooking class. mais, le quinoa, il faut mettre un peu moins d'eau que le riz. Je pense que c'est une portion de, une tasse de quinoa pour une tasse d'eau.
Oui, s'il te plaît, il faut que je sorte moins niaiseuse.
Tu peux mettre... Ce qui est intéressant avec le quinoa, c'est que ça peut être préparé comme salade, ça peut être préparé comme substitut riz, comme substitut starch, et c'est très fort en protéines. On sait que notre corps est constitué de 20% de protéines, et le quinoa, en fait, c'est un des aliments qui est le plus fort, le plus grain, le plus... qui contient le plus de protéines, on dit même de 12 à 17% de protéines. Donc, c'est vraiment beaucoup, là. C'est très semblable et plus que la viande. Ce qui est intéressant, qu'est-ce qui inclut dans le quinoa? C'est très fort en protéines. Il y a toutes les vitamines B, donc B-thianine, B6. C'est fort en fer, c'est fort en magnésium, c'est fort en phosphore, en zinc. Et comment on sait quand il nous manque certaines vitamines? Donc, par exemple, le zinc, le calcium et le magnésium. C'est quoi les indicatifs quand notre corps en manque? Un exemple, regardez vos ongles. Quand vous voyez des toutes petites taches blanches, il manque de calcium dans votre corps. Mmh. Ça, c'est un indicatif. Une autre indicatif, c'est regardez les ongles. Si vous voyez une ligne grise qui est vraiment mince, qui traverse l'ongle, ça, c'est un manque de zinc. C'est des petites choses à savoir comme ça. Mmh. Une autre indicatif, le manque de magnésium, ça donne généralement des troubles de sommeil, des crampes dans les jambes. Donc, si vous sentez que vous avez... Moi, ça m'est arrivé peut-être un mois, j'avais des crampes dans les jambes, ça me réveillait à travers la nuit, j'arrivais pas à dormir, ça faisait vraiment très mal. Puis j'arrivais pas à dormir. Puis à ce moment-là, j'ai fait des recherches, puis j'ai découvert que c'est le manque de magnésium. Puis depuis que j'ai commencé à prendre des substituts, je me sens bien. Donc, c'est juste des choses à savoir, comme ça, notre corps nous le dit, c'est juste qu'on sait pas comment reconnaître. Donc, ici, à Planète Montréal, à chaque capsule de santé que je fais à chaque semaine, je vous parle d'un autre ingrédient à ajouter qui, en fait, c'est un médicament. La nourriture, ça devrait être nos médicaments. On devrait pas consommer beaucoup
des pilules.
Des pilules, des petites granules. Tu sais, il faut s'éloigner de tout ça. La nourriture, c'est la solution. Donc, une autre chose qui est intéressante avec le quinoa, c'est que c'est gluten-free pour les personnes qui sont allergiques au gluten. Pour les personnes qui sont allergiques au lactose, ils peuvent le consommer aussi. C'est facile à digérer, c'est facile à préparer, c'est rapide. Et ça contient les 9 aminoacides essentiels. Ça contient tous les aminoacides qui sont essentiels dans une recette. C'est la chose qui est... Non, mais je comprends pas pourquoi tout le monde est calme.
Il me regarde comme...
Moi, je suis comme... Non, vous comprenez pas.
Moi, j'en mange déjà. Je suis déjà rendue.
Moi, qu'est-ce que je rate toujours, mon quinoa? J'attends la réponse magique.
C'est ça qui se passe. Ouais. Donc, tout le monde ici le connaît déjà, le quinoa.
Karen, tu vas m'expliquer tantôt. C'est quoi la portion d'eau, là?
Mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut être... La portion d'eau, voilà. Non, ça peut être fait pour des salades qui sont avec des fruits, qui sont avec des légumes. Vous coupez du maïs, du brocoli, vous ajoutez des noix, des canneberges, peu importe, c'est vraiment facile à faire. Donc, c'est un ingrédient à ajouter. Donc, cette semaine, on vous a parlé du quinoa. La semaine prochaine, je vais vous parler d'un autre ingrédient qu'on voit dans tout ce qu'on consomme en majorité, surtout cette era-ci, c'est le MSG. Donc, pourquoi se tenir loin du MSG? Pourquoi c'est nocif à notre système? Pourquoi c'est partout? Toutes ces questions-là que j'aimerais répondre. Donc, à la semaine prochaine, je vais vous parler d'une autre capsule santé.
Merci beaucoup, Kate. C'était vraiment plaisir. Karen, on se parle tantôt.
On se parle tantôt.
Je vous rappelle que vous écoutez Planète Montréal, on part en musique. DJ Lix nous a préparé Impost avec le titre Le même tralala. Mmh.
t'en aimeras le coup, tu oublieras les autres. Oh, tu t'attacheras à moi, à ma façon d'être. Hey, mon regard et ma voix, je serai dans ta tête. Mais un jour tu t'éloigneras, tu ne seras plus la même. Tu te diras sans vie, vide et sans envie. Alors pour m'éviter ce mal, laisse-moi.
Alors finalement, c'était pas In Post avec le même tralala, c'était Monsieur Novembre avec Laisse-moi.
Oh. Laisse-moi te laisser.
Alors Karen, tu es notre dessert pour l'édition de Planète Montréal d'aujourd'hui et tu nous parles de la coalition Avenir Québec qui souhaite accorder aux immigrants un délai. En tout cas, on a entendu ça dans les nouvelles vaguement. Je te laisse développer là-dessus.
Exactement, c'est une nouvelle qui a fait la une ce mardi justement avec... la nouvelle, comme que tu as dit, de la coalition Avenir Québec qui propose un nouveau pacte avec les immigrants. Est-ce que vous en avez entendu parler?
Oui, comme quoi qu'ils veulent donner des cours et après, il y a un examen qui va devoir être donné et puis il faut passer cet examen-là pour pouvoir avoir sa citoyenneté.
Exactement. Donc, brièvement, ce que ça dit, c'est qu'après 3 ans, les immigrants qui viennent d'arriver au Québec vont devoir passer un test de français. Plus un test lié à la démarche, à leur connaissance sur la démarche liée à l'emploi et également sur la connaissance des valeurs de la Charte québécoise des droits et libertés. Donc, c'est comme un examen que ces nouveaux arrivants-là vont passer pour savoir oui ou non si tu passes le test. Si tu passes pas le test, qu'est-ce qui se passe? On te donne la chance de le repasser une deuxième fois. Si tu échoues encore une fois, tu retournes dans ton pays ou sinon tu te déplaces à une autre province.
Wow. Puis c'est dur, hein?
C'est très dur. Puis moi, quand que j'ai entendu ça aux nouvelles, j'ai pensé tout de suite à mes parents. Mes parents sont venus ici. Bon, c'est sûr que je suis d'origine haïtienne, donc le français, c'est très proche du créole. Donc, ils avaient quand même une petite base, mais je me suis dit, qu'est-ce que ça serait, qui se serait passé si... cette loi-là existerait il y a comme 30 ans.
Mais il semble que ça existe dans certains pays européens, je pense en Norvège, entre autres, où tu dois vraiment apprendre le norvégien pour pouvoir rester dans le territoire. En quelque part, moi aussi, j'ai réfléchi hein, quand j'ai entendu cette nouvelle-là, puis je me dis, mais c'est comme un couteau à deux tranchants, parce que d'un côté, c'est pas bête, parce que quand tu viens t'installer dans un territoire, encore faut-il que tu fasses l'effort de parler la langue du pays. Ici, la langue, c'est le français, hein,
oui,
au Québec. Donc, il faut vraiment faire l'effort de s'intégrer. Mais d'un autre côté, si jamais tu ne passes pas cet examen-là, c'est dur. C'est dur qu'on te refuse ton droit d'immigration sur cette base-là.
Exactement. Puis justement, dans le point de presse mardi passé, François Legault m'a donné l'exemple que, par exemple, si un père de famille ne démontre pas sa capacité de bien s'exprimer en français, ben, lui seul peut retourner dans son pays, puis sa famille reste ici. Alors, imagine que...
Qu'est-ce que vous en pensez, les filles?
Exactement.
Moi, j'ai une question pour toi. Parce que je suis un peu pour et contre. Je suis un peu tordue. Mais ce qui va vraiment faire ma décision, c'est est-ce qu'on offre des cours? Est-ce qu'on offre du support? Est-ce qu'on offre des ressources pour les personnes pour qu'ils apprennent la langue? On les laisse tout seuls quand ils ne parlent même pas la langue du pays, puis on dit débrouille-toi à apprendre la langue en certaines périodes de temps?
Non, il va y avoir un soutien qui va être offert à ces nouveaux arrivants-là. Justement, la CAQ va investir environ 80 millions par année pour les aider à réussir. Donc, il y a vraiment un accompagnement pour les aider à réussir leur cours en français, puis justement comprendre un peu ce qui est la culture québécoise.
Parce qu'à la lumière de ça, moi, ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'était déjà instauré les cours de français.
Oui.
Puis ça a été coupé. C'est une grosse coupure budgétaire. Puis là, c'était une responsabilité qui était relayée aux genre maisons culturelles, vraiment là, les centres culturels de chaque quartier. Ben là, si un nouvel arrivant qui fait partie d'une communauté culturelle doit retourner dans sa maison de sa communauté culturelle pour apprendre une autre langue, je trouve que c'est un petit peu antinomique comme action. Faudrait vraiment que ça revienne dans les institutions francophones, la responsabilité d'enseigner le français aux nouveaux arrivants. D'après moi,
Il faut vraiment qu'ils injectent de l'argent là-dedans.
Mais il y a une autre chose aussi, j'ai remarqué dans les écoles secondaires, on dirait que le niveau d'éducation qui est nécessaire pour pouvoir le secondaire 4 a diminué à travers les années. Donc, j'ai l'impression que même pour les personnes qui sont québécoises, s'ils ne sont pas en train de chercher une éducation supérieure dans la langue française, ils sont quand même... ils n'ont pas accès à beaucoup. Là. Si ce n'est pas de,
ouais,
de
ce serait intéressant, personnelle... Hein, ouais. Que même des Québécois de souche passent cet examen-là.
Ben oui, c'est vrai.
C'est vrai. Je suis sûr qu'il y en a qui ne passeraient même pas, hein, qu'on devrait leur enlever leur citoyenneté.
Puis après ça, on fait quoi?
Alors, si vous
donc,
voulez un
c'est
peu...
un sujet un peu... Ouais.
Si vous voulez un peu savoir les chiffres, c'est vrai que François Legault il part d'un constat, c'est que sur les 50 000 personnes qui immigrent au Québec chaque année, 42 % ne connaissent pas le français. Et 78 ne suivent pas de cours d'intégration aux valeurs québécoises. Mm-hmm. Alors, c'est vrai qu'il y a un constat, mais le problème, c'est qu'il faut voir la transparence du processus dont on parle. Donc, comment on évalue, en fait, si la personne connaît bien la langue.
Mais moi, je pense que c'est une question ouverte qu'on lance à notre public. C'est comme ça qu'on finit l'émission cette semaine. Merci beaucoup d'avoir soulevé la question, Karen. Moi, je vous souhaite une bonne semaine, puis je vous dis à la semaine prochaine pour une autre édition de Planète Montréal. Merci.
Merci. Merci.
Bye.
Culturel du 19 au 29 mars, la 33e édition du FIFA Festival International du Film sur l'Art présente 243 films de 29 pays. En tout, 14 salles montréalaises se regroupent pour vous offrir des œuvres filmiques de haut calibre, toutes disciplines artistiques confondues. Art contemporain, musique, architecture, danse, littérature, cinéma et plus vous attendent. Une série d'expositions, rencontres et événements spéciaux aussi à ne pas manquer. Consultez le www.artfifa.com ou rejoignez-nous sur Facebook et Twitter.
Ici Ève Landry
et Marc-André Coallier,
porte-parole du 20e anniversaire du festival Vue sur la relève, présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor.
J'animerai la soirée d'ouverture le 7 avril au Théâtre Plaza, présentée par 5-4 Musique. Vous y entendrez deux de leurs artistes, le groupe Caravane et Joseph Edgar.
Suivra le spectacle vitrine du festival. Talents, audace et découverte seront au rendez-vous du 7 au 18 avril dans plusieurs salles de Montréal.
Informations et billets à vuesurlarelève.com.
Les changements des lois fédérales et provinciales rendent difficile la préparation de vos rapports d'impôts? La solution? Bureau comptable Cola. Des professionnels chevronnés travaillent avec rigueur pour vous sauver de l'argent ou vous aider à recevoir le maximum de votre rapport d'impôts à un prix compétitif. Cette année, confiez vos rapports d'impôts personnels et d'entreprise au bureau comptable Cola. Pour connaître le point de service le plus près de chez vous, appelez dès maintenant les bureaux comptables Cola au 514-374-0137. Au 514-374-0137.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Un monde différent.
Merci l'organisme, la ressource et la fondation Raid Esther, grâce à qui ce projet est rendu possible. Tous les propos tenus dans notre émission ne représentent que les membres de l'équipe de Marginal Original.
Auditrices et auditeurs, bienvenue à Marginal Original, une émission sur les thèmes qui touchent à la marginalisation dans notre société. On est une équipe d'une dizaine de jeunes femmes entre 18 et 30 ans qui font un travail collectif. On vous présente donc à chaque deux semaines de nouvelles animatrices qui vont vous parler des enjeux qui nous touchent. La solitude ne dépend pas de l'extérieur, c'est une chose du dedans. Être solitaire est un choix, la solitude ne l'est pas. La solitude rétablit aussi bien les harmonies du corps que celles de l'âme. Bonsoir, chères auditrices et auditeurs, je m'appelle Amélie et ce soir, la solitude est le thème qui sera au cœur de notre discussion. En regardant autour de vous, vous trouverez sûrement des personnes qui vivent de la solitude et peut-être même de l'isolement. Nous avons tous rencontré des moments de solitude volontaires ou involontaires. Des moments que l'on a pu vivre à court, à moyen ou à long terme. Parfois même se sentir seul, même si on est entouré d'une foule de gens, ou tout simplement une personne qui nous est chère. Ou à l'autre extrême, une personne qui, malgré elle, fait toujours en sorte de ne jamais être seule ou isolée. Ce soir, on va démystifier et répondre à plusieurs questions concernant la solitude. En première partie, nous allons donc recevoir en entrevue Annie-Pierre Gay, qui est sexologue clinicienne et qui répondra à nos questions concernant la solitude. En deuxième partie, Rose-Flore et Maïcha témoigneront sur leur vécu concernant la solitude et l'isolement. Mais tout d'abord, allons en musique avec Lisa Leblanc, avec la chanson « Juste parce que je peux » qui parle d'apprivoiser la solitude.
Faut que j'avoue que des fois j'ai le goût d'assumer la solitude puis de l'apprivoiser. Des fois je voudrais brailler. Parce que je peux. Puis quand la vie se décide de me rattraper, je voudrais sacrer contre elle. Juste parce que je peux. On m'a déjà dit que la solitude n'a pas besoin d'être un état de tristesse. M'accrocher à ces mots jusqu'à ce que ça passe. La défensive, mettre mes tripes à table, puis de m'en foutre de tout ce qui m'entoure. Juste parce que je peux. Puis si mon rire est étouffé, fais-toi-en pas, il reviendra. Ben là, j'ai besoin de faire mon deuil, puis de respirer. Juste parce que je peux. Déjà dit que la solitude n'a pas besoin d'être un état de tristesse. Je m'accrochais à ces mots jusqu'à ce que ça passe. De dire qu'on est solitaire. Tu m'as répondu qu'être heureux, ça y est pas plus.
Depuis les 40 dernières années, il y a eu un déclin de la présence de la religion catholique au Québec. Combiné à la montée de l'individualisme, les gens se retrouvent de plus en plus seuls avec le démantèlement de la famille traditionnelle et au déclin du support communautaire qui était autrefois administré par la religion catholique. Elle leur procurait une certaine sécurité parce qu'elles amenaient une réponse absolue. Aujourd'hui, les gens se retrouvent davantage livrés à eux-mêmes quant au questionnement sur le sens de leur vie. Ce questionnement peut créer une insécurité et une grande peur pour certaines personnes. Ce petit historique nous permet de mettre en contexte la solitude et l'isolement, qui gagnent beaucoup de personnes dans la société. Pour nous éclairer davantage sur le sujet, je fais une entrevue par téléphone avec Annie-Pierre Gay, qui est diplômée en sexologie clinique de l'UQAM. Elle a été intervenante à la maison d'hébergement pour jeunes femmes en difficulté, La Ressource, pour une période de 4 ans. Elle est présentement conseillère clinique pour une compagnie d'aide aux employés. Bonjour Madame Annie-Pierre Gay, ça va bien?
Oui, bonjour, ça va bien, merci. Et vous?
Oui, ça va très bien. Donc, la première question, c'est quelles sont les principales raisons qui font en sorte qu'une personne s'isole?
Oui, ben en fait, l'isolement dans le fond, ça peut être dû à différents facteurs, ça c'est sûr. Mais souvent, une personne peut s'isoler là quand elle a l'impression, par exemple, de pas correspondre aux normes sociales qui sont en vigueur. Ça peut être une personne qui se sent différente d'un groupe, d'une société ou des attentes des autres. Ça peut aussi être quelqu'un qui se sent pas compris. C'est d'ailleurs là, le cas souvent chez les personnes, mettons, qui souffrent d'un problème de santé mentale, puisqu'ils ont l'impression là de pas cadrer, si on veut, dans les attentes sociales du moment actuel, comme quoi il devrait être une personne fonctionnelle ou efficace. Ça arrive souvent. Parfois, les gens qui ont eu des relations qui les ont blessés peuvent avoir tendance là à éviter des complications éventuelles en entretenant pas du tout de relations ou en évitant là, les situations sociales, les sorties avec des amis, de la famille ou quoi que ce soit. Ils se sentent plus à l'aise là à ne pas avoir de relations du tout.
Par quel mécanisme on alimente la solitude, malgré soi ou de manière inconsciente?
Oui, ben en fait, il y en a un mécanisme qui de défense, là, si on veut, on appelle ça un mécanisme assez simple, là, c'est l'évitement. En fait, souvent, les personnes qui vont vivre la solitude vont avoir tendance à ne pas aller contre cette idée-là qu'ils sont mieux seuls. Donc, ils vont rester chez eux, ils vont s'isoler, ils vont éviter les relations avec les autres. Chose sûre, c'est quand on évite de faire peur, en fait, de faire face à notre peur, pardon, c'est que la situation ne va pas changer. Au contraire, le sentiment de solitude ou le sentiment d'être différent des autres va s'approfondir puis va venir confirmer là, à la personne que les autres sont différents ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne-là. C'est donc vraiment commun, en fait, en général, l'évitement, mais surtout dans un problème, là, si on veut, de solitude ou d'isolement. Même si, parfois, là, les gens, tu sais, ils ont vraiment un besoin relationnel qui est fort, ils préfèrent, dans le fond, être seuls là, que mal accompagnés, comme on dit souvent, là.
Ah, d'accord. OK. Mais par rapport à tout ça, est-ce que c'est possible qu'une personne a tendance à être plus solitaire sans que ce soit de l'isolement?
Ben oui, ça c'est sûr. Il y a certaines personnes qui aiment ça être seule. C'est souvent un peu comme j'ai abordé le moins de compromis. On sait que c'est plus facile quand on est avec seulement soi. On prend les décisions, on décide de notre horaire, on fait ce qu'on veut. C'est sûr qu'il y a des gens qui aiment ça la solitude. Ça permet aussi de faire, si on veut, là, des activités plus passives tout seul, comme faire la lecture, la méditation, de la relaxation, se retrouver. C'est correct de vouloir, d'avoir le besoin d'être seule. C'est vraiment différent en fait quand ça devient plus une défense. Parce que si on veut, là, le problème avec la solitude, c'est plus qu'elle ne réfère pas à un sentiment de bien-être. Quand quelqu'un veut être solitaire, c'est que la personne veut s'adonner à des activités avec elle-même, ses désirs personnels, puis ne pas avoir à considérer peut-être les besoins des autres pendant ce moment-là. Mais quand on réfère à des personnes qui s'isolent, on réfère plus à des personnes qui vont souffrir en silence la plupart du temps. Là.
OK, donc il y a vraiment une différence entre la solitude et le fait d'être solitaire.
Exactement, exactement. C'est vraiment deux choses différentes. C'est sûr qu'il faut essayer de nuancer. On parle de deux extrêmes si on veut. Mais le fait de vouloir être plus solitaire, de vouloir faire des activités seules, en fait, c'est vraiment sain là, pour l'être humain.
Puis, qu'est-ce qui fait qu'on se sent seul malgré qu'on est entouré?
C'est une bonne question. Parce que souvent, les gens qui se sentent seuls vont dire, ben oui, mais là, t'as de la famille, t'as des amis, t'es pas toute seule, comment ça fait que tu te sens comme ça? Mais ce qu'il faut comprendre avec la solitude, c'est que oui, ça peut être un état comme dans le fait d'être toute seule chez soi, de faire des activités par soi-même, mais c'est avant tout, dans le fond, un sentiment. Donc, c'est comment on se sent à l'intérieur. Ça n'a pas nécessairement de lien, ou des fois, ça peut en avoir, mais pas toujours avec le fait d'être entouré ou non. Donc, souvent, c'est normal aussi d'avoir un questionnement existentiel, si on veut, à propos de savoir un peu est-ce que les gens nous comprennent vraiment? Des fois, c'est un peu là que le sentiment de solitude, même si on est entouré, va être généré. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va nécessairement nous comprendre complètement ou comme on voudrait, puisqu'il n'y a personne qui est dans notre situation, il n'y a personne qui vit ce qu'on a vécu, il n'y a personne qui a notre passé. Donc, souvent, les gens vont peut-être se sentir seuls, même s'ils sont entourés, justement à cause de ce facteur-là. C'est-à-dire qu'on est unique, on n'a pas la même expérience. Fait que c'est difficile, des fois, de connecter avec les gens. Tu sais, des fois, on va dire souvent, ah, j'aimerais ça trouver l'âme sœur à tout prix. Mais quand on regarde pour trouver l'âme sœur, c'est qu'on regarde de trouver quelqu'un qui est parfaitement comme nous, mais ça n'existe pas dans le fond. Fait que des fois, on va se sentir seul malgré tout ça.
Ensuite, dans quelle mesure l'être humain a besoin de solitude?
À mes yeux, dans le fond, l'être humain a vraiment un grand besoin de solitude. En fait, c'est important. en fait, plus, là, c'est pas nécessairement les gens qui vont ressentir le besoin, mais plus l'importance là, de se retrouver seul. Pour moi, c'est une question de balance, d'équilibre émotionnel. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va le sentir comme ça. Il y a certaines personnes, dans le fond, qui vont vivre un peu la solitude là, comme quelque chose d'insécurisant, de menaçant, comme quoi ils sont pas capables d'être tout seuls. Ça dépend vraiment, en fait, de chaque personne. Mais c'est sûr que, comme j'ai dit un peu tantôt, là, l'important, ça serait d'avoir une nuance, une zone grise entre le fait de pouvoir être seul et puis le fait de pouvoir être bien quand on est accompagné.
OK. Là, on est à un extrême. Puis l'autre extrême qui serait pour une personne qui aurait peur de se sentir seule, dans le fond, pourquoi est-ce que la solitude, ça peut être épeurant pour certaines personnes?
Mm-hmm. Bien, c'est assez commun. En plus, le fait que les gens ne veulent pas être tout seuls ou que ça peut être épeurant, que ça peut être insécurisant, en fait, ça peut être par exemple des personnes qui ont pas appris à être seules, à gérer le quotidien puis les défis de manière autonome par eux-mêmes. Autrement dit, des fois c'est un peu par rapport au milieu d'où on vient, si jamais on a été surprotégé, qu'on n'a pas eu la chance de découvrir par nous-mêmes, ou aussi si on n'a pas un peu fait le tour de nos intérêts personnels, si on se connaît pas beaucoup, si on n'a pas confiance en nous, de se retrouver seul, des fois ça peut être épeurant parce qu'on se dit ok, mais est-ce que je vais être capable de faire ça toute seule? Que moi, j'ai les capacités de pouvoir être fonctionnelle par moi-même. Mm-hmm. Donc, dans le fond, c'est très confrontant souvent se retrouver seul, en fait. Souvent, les gens, quand ils sont seuls, ils vont se mettre à penser au passé, penser à leurs difficultés, essayer de se projeter dans l'avenir pour essayer de trouver des solutions. Mais tout ça, ça peut générer de l'anxiété, ça peut rendre plus incertain. Ça, pourquoi certaines personnes ont tendance à vouloir être entourées tout le temps, comme quoi, là, dans le fond, ça va les empêcher là, de peut-être se connecter à leurs difficultés, puisque de les gérer émotionnellement, c'est pas quelque chose qu'ils maîtrisent, si on veut.
D'accord. Est-ce que c'est vrai qu'une personne qui ne se sent pas bien avec elle-même aura de la difficulté à développer des relations intimes avec les autres?
Ben en fait, cette question-là est un petit peu difficile à répondre au sens où c'est pas nécessairement si quelqu'un est pas bien avec elle-même, qu'elle a pas d'estime ou qu'il s'aime pas, c'est pas nécessairement que ça va être difficile de développer des relations intimes avec les autres comme telles. Ça peut être facile de rentrer en relation, d'avoir des relations, mais peut-être que les relations vont être plus difficiles à gérer. Je reviens un petit peu à ce que je disais. Quand on se connaît bien, que quelle que soit la relation amoureuse, familiale, amicale, c'est toujours plus facile un peu de gérer nos relations puisque, bon, quand on rentre en relation avec l'autre, il y a toutes sortes de défis. Il faut s'adapter, faut savoir où sont nos limites, qu'est-ce qu'on est prêt à faire. Puis c'est le genre de choses qui, dans le fond, qui se développent avec un peu la confiance en soi.
OK, d'accord.
Donc, c'est sûr que quand on apprend à se connaître puis qu'on respecte un peu ses qualités, ses défauts, ses limites, c'est plus facile d'avoir des relations saines. Je sais pas si c'est plus facile de développer des relations, mais des relations saines, ça, je suis pas mal sûre. Ouais.
Quelles sont les premières étapes pour sortir de la solitude ou de son isolement?
Ben c'est sûr que ça dépend de chacun, hein. Tout ça c'est relatif. Mais comme je viens de le mentionner, là, je me répète un peu, mais en même temps c'est tellement la base. Il est crucial, je pense, de miser sur la connaissance de soi, l'appréciation de soi-même, le respect aussi de sa différence. C'est pas parce qu'on est différent de la majorité des gens ou qu'on pense différemment ou qu'on a des goûts différents qu'on a moins de valeur ou qu'on suscite moins là si on veut l'intérêt des gens. Apprendre à vivre sainement là, quand on est seul, ça suscite un peu le goût de l'autre. Quand on s'accepte mieux, on va avoir moins de difficultés à rencontrer les gens qui sont différents. C'est sûr que moi, je pense que travailler là-dessus, travailler sur soi, que ce soit avec des intervenants ou en thérapie ou quoi que ce soit, ça peut être un des premiers pas importants. Une autre chose aussi, je pense, c'est qu'il faut y aller progressivement. Si on parle d'une personne qui vit beaucoup d'isolement, qui reste chez elle, qui n'est pas en contact avec personne, on peut pas lui demander non plus de, bon, tout d'un coup, aller s'inscrire dans une activité, rencontrer plein de gens ou aller dans des foules ou des choses que la personne se sent pas à l'aise de faire. Des fois, c'est sortir de l'isolement, ça peut être juste des petites choses comme, ben, c'est aujourd'hui, je vais téléphoner à une ancienne amie pour lui demander comment ça a été sa journée ou je peux peut-être appeler à la ligne d'écoute que je connais pour raconter justement ma journée à moi. Peut-être que je peux juste comme aller passer faire un tour avec ma famille, aller dans un café, puis discuter un peu du travail avec la personne qui fait le café. Juste le fait de faire des petites étapes. C'est sûr que tu sais, normalement les gens ils disent ben là, il faut que je sorte l'isolement, il faut que je sois une personne sociale. Il y a aussi des traits de personnalité là-dedans. Donc, faut pas y aller trop rapidement. Faut y aller à votre rythme, mais en sachant qu'il va falloir un petit peu d'effort pour sortir de ça parce que ça demande un peu plus là, de compromission.
Merci encore à Anne-Pierre Gay, sexologue clinicienne. Allons en musique avec Corneille et la chanson Seul au monde, qui parle humblement de la solitude qu'on peut ressentir.
On dit souvent que j'ai l'air d'avoir tout pour moi, mais c'est sans savoir les fantômes qui me hantent, les réquiems que je me chante. Le jour dure, chaque jour qui passe, et les pierres de chaque mur un jour se cassent. Je suis peut-être la roche qu'on croit, mais je suis plus fragile que je veux qu'on voit. Maman m'a dit avant de partir, monte jamais tes faiblesses et dans le pire, reste fort, avale tes larmes, car ta fierté restera ta plus belle arme. Donc je sais rire quand il le faut, mais faut pas croire, je craque dès qu'on tourne le dos. Je marche droit pour ne pas plier, d'ailleurs je chante souvent pour ne pas crier. Quand je pense à ma vie, je fais face à mes nuits. Chaque jour qui se lève me dit que je suis seul au monde. Y a rien à faire, je suis seul au monde. Je peux plus le tenir, je suis seul au monde. Je me sens seul au monde. J'haïs Noël. Ces bêtes fêtes de famille et tout ce qui rappelle ma plus belle vie. Je suis jaloux de vous les chanceux qui prenaient votre chair, votre sang pour acquis. J'ai horreur de votre pitié, je prends très mal votre générosité. Ça fait déjà un bout que je me suffis, c'est pas vrai mais pour être fort c'est ça que je me dis. Quoi qu'il arrive faut que je reste en moi, quoi qu'il arrive faut pas que je perde mon contrôle. Je pense à moi avant le reste du monde, car avec les années je me suis rendu compte que si c'est pas moi, ce sera personne. Pas ni par toi, ni personne. Ici, ben, c'est chacun pour soi. Pour les pauvres et fiers solitaires comme moi. Quand je pense à ma vie, seul face à mes nuits, chaque jour qui se lève me dit que je suis seul au monde. Il n'y a rien à faire, je suis seul au monde. Je peux plus le taire, je suis seul.
L'objectif de notre émission marginale originale est de vous faire profiter de partages par rapport aux enjeux qui nous préoccupent. Pour cette émission, Rose-Flore et Maïcha nous parleront de leur expérience par rapport à la solitude et l'isolement et comment elles en sont sorties.
Bonjour, c'est Maïcha. Quand je suis partie en appartement, j'ai réalisé que je vivais mal la solitude. J'ai commencé à avoir l'impression que j'étais toute seule et que les gens ne se préoccupaient pas de moi. J'étais habituée d'habiter avec plusieurs personnes. Je sentais qu'on n'avait plus besoin de moi, comme si je n'existais plus pour eux. Étant donné que personne ne semblait s'intéresser à moi, y compris sur les réseaux sociaux, j'ai juste définitivement fermé mon Facebook. J'ai arrêté d'être en contact avec les gens dont je n'étais pas proche parce que je n'avais pas espoir que je pourrais bâtir des relations intimes avec ces personnes. Donc, à ce moment-là, j'étais réellement seule dans mon cœur, dans mes relations d'amitié et aussi sur Internet. J'ai trouvé ça difficile puis je me sentais impuissante. J'ai réalisé avec le temps que c'est moi qui s'isolais et non que les gens avec qui j'habitais avant ne se préoccupaient pas de moi. Au contraire, ces personnes-là venaient vers moi, mais j'avais de la difficulté à être en lien avec eux. Quand j'ai réalisé que je m'isolais, j'ai pris soin de moi et je me suis remise en question. Pour prendre soin de moi, j'ai commencé à faire des activités seule, comme aller à la bibliothèque emprunter des livres de psychologie. Dans ces livres, j'ai vu que je voulais contribuer à vivre en harmonie avec moi et les autres autour de moi. J'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai abordé des personnes afin de les découvrir davantage. J'ai aussi compris que la solitude, c'est normal et qu'il en faut, donc je me rassurais en me disant qu'on a tous besoin de cela. Cette solitude m'a permis de me découvrir et de me comprendre et de savoir vraiment ce que je veux dans ma vie. Pour prendre soin de moi, j'ai réussi à commencer à faire des exercices régulièrement, ce qui m'a permis de diminuer mon stress et d'être fière d'accomplir ces exercices tous les matins. Je vous jure que ça commence bien une journée. Je fais aussi de la méditation à tous les jours. Ça m'aide à me recentrer et à laisser aller la rumination. Aujourd'hui, je ne me sens plus seule à l'intérieur, isolée dans mon appartement, parce qu'avec le temps, j'ai travaillé mon estime personnelle. Ça m'a permis d'être plus facilement en relation interpersonnelle, parce que je parviens maintenant à identifier le genre de personne avec qui je peux être moi-même, sans avoir peur d'être jugée. Donc, aujourd'hui, je me sens bien avec l'entourage que j'ai. Ils me démontrent que je peux leur faire confiance avec leurs attitudes authentiques et honnêtes. Maintenant, je suis capable de proposer des activités à mes amis. Avant, j'avais peur qu'on me dise non. Maintenant, si on me dit non, je sais que ce n'est pas parce que la personne n'a pas envie de me voir, mais bien tout simplement parce qu'elle ne peut pas. Je ne me sens plus seule même quand je suis seule chez moi dans mon appartement. Au contraire, j'ai des projets personnels pour m'occuper et avoir du fun avec moi-même. Je vais à l'école à tous les jours et je fais du bénévolat une fois par semaine parce que ça me permet de rendre service et de développer des compétences interpersonnelles. Pour terminer, j'aimerais juste souligner qu'on a seulement une vie et le meilleur service qu'on peut se rendre, selon moi, c'est d'apprivoiser sa solitude positivement en faisant les choses qu'on aime. Espoir, courage et amour!
Moi, c'est Rosefleur, je m'appelle Rosefleur. En ce moment, j'habite en résidence avec d'autres femmes. Au moment où je suis arrivée, soit je travaillais, soit j'étais dans ma chambre tout le temps. Je n'entrais pas en contact avec qui que ce soit, même les personnes avec qui j'habitais. Avant, j'étais chez mes parents. Les moyens pour éviter les conflits, c'était de m'enfermer dans ma chambre et de rester dans mes affaires. C'était comme ma seule façon de me protéger des chicanes et des pensées négatives. À un certain moment, c'est comme si je ne savais plus comment m'en sortir. Ça a été tellement un mode de vie que ça faisait longtemps, qu'au moins 3 ans que je me protégeais de cette façon en m'isolant. C'était devenu une sorte de mécanisme auquel j'étais habituée. Éventuellement, en arrivant à la résidence, mon intervenante m'a dit qu'il fallait que je sorte de ma chambre. Je trouvais ça difficile, je n'arrivais pas à trouver quoi faire. Par exemple, je m'ennuyais beaucoup. Pour m'aider, l'intervenante me demandait simplement « Qu'est-ce que tu pourrais faire pour t'occuper ?» Je n'avais aucune réponse. Je n'étais plus capable de trouver comment avoir du plaisir dans ma vie. Par exemple, lire un livre, écouter de la musique. Les choses que je faisais maintenant, je ne savais plus comment faire ces choses-là. Finalement, le premier geste que j'ai réussi à trouver pour me changer les idées, je m'en rappelle bien, c'était simplement de changer de pièce pour regarder la télé. Ça a l'air de rien, mais pour moi, c'était très difficile. C'est comme si mon cerveau n'était pas capable de fonctionner. Je ne trouvais pas l'utilité de changer une de pièce, mais pourtant, j'ai réalisé que juste quitter ma chambre pour aller regarder la télé, ça faisait du bien. C'est vraiment la première chose que j'ai trouvée pour me désennuyer. J'avais très peur aussi de parler aux gens. J'étais trop timide pour poser des questions. Je n'osais pas parler aux autres. Des fois, je parlais, mais personne m'écoutait. L'intervenante me donnait des trucs comme appeler la personne par son nom et répéter si la personne ne répond pas. Elle me trouvait aussi des qualités, des compliments pour m'encourager à socialiser plus avec les autres. Ça m'a pris presque un an, mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai encore besoin de travailler sur moi-même, mais je me suis énormément améliorée. Maintenant, je participe beaucoup à l'émission Marginale Originale. Je passe du temps à l'église. Je fais beaucoup de choses en groupe. Par contre, ça m'arrive encore de trembler quand je me sens nerveuse dans des situations sociales. J'aimerais être encore plus à l'aise à communiquer avec les gens d'aujourd'hui sans que ça me mette de la pression, sans me mettre à trembler. Des fois, je reste effacée ou je manque de sens d'initiative. Mais avant, j'avais peur d'avoir l'attention des autres. Je parlais très rapidement et bafouillais. Maintenant, je prends le temps de m'exprimer. J'arrive beaucoup à mieux gérer mon stress en groupe, gérer ma peur de prendre la parole. Il me reste du travail à faire, mais je suis fière d'être capable de prendre ma place. Voilà.
Merci à Roselaure et Maïcha pour leur témoignage, que je trouve très, très courageuse. Donc, notre émission tire à sa fin. Merci d'avoir été à l'écoute. On tient à remercier la maison d'hébergement pour jeunes femmes en difficulté, La Ressource, et la Fondation Rêve d'Esther, grâce à qui cette émission est rendue possible. On remercie aussi l'équipe de l'émission Planète Montréal de nous offrir ce temps d'antenne. On vous invite à réécouter et télécharger cette émission de Marginal Original. Rendez-vous au www.radiocentreville.com dans la section Réécouter une émission, puis cliquez sur Planète Montréal. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour notre prochaine émission.
L'économie solidaire Desjardins soutient 2900 coopératives et organismes sans but lucratif à Montréal et partout au Québec. Elle prête à ses entreprises l'épargne que vous lui confiez. Pour ce faire, elle conseille 10 000 citoyens comme vous en matière d'investissement socialement responsable. Faites comme Laure Varidel, la cofondatrice d'Équitaire. Épargnez là où ça compte vraiment. La Caisse d'économie solidaire Desjardins vous invite à diversifier votre portefeuille. Cet argent sera prêté à des entreprises d'économie sociale, des coops et des OBNL qui répondent à de vrais besoins. Comment? Par le placement à rendement social. Découvrez le placement à rendement social. Vous obtiendrez un taux d'intérêt aussi avantageux que celui des autres institutions financières. Vous participerez à financer l'économie réelle. Visitez le www.placement.coop. En passant, vous êtes à l'écoute d'une entreprise d'économie sociale. Il y en a plus qu'on pense et elle rapporte à toute la société.
Les productions Nuit d'Afrique présentent la 23e édition du Festival de musique du Maghreb. Trois soirées tout en rythme et festivités aux couleurs de l'Afrique du Nord. Jeudi 26 mars, c'est le retour sur scène de l'Ekbir avec les grands succès de Khaled, Rachida et Mektoub Club Balatou. Samedi 28 mars, retrouvez l'énergie contagieuse au rythme andalou et berbère du groupe Aïra au Théâtre Fermont. Dimanche 29 mars, célébrez les rythmes Gnawa avec Mara Couleur pour clore le festival au Club Balatou. Info www.festivalnuitdafrique.com.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM.